C'est un grand pas dans la bonne direction de notre point de vue, étant donné que pour la première fois depuis le début de cette guerre en 1998, la communauté internationale l'a abordée de manière tout à fait globale, n'a négligé aucun aspect, ni interne, ni surtout régional. Et donc nous estimons que de la conjonction de tous ces efforts au niveau interne, au niveau régional et au niveau international, nous pouvons arriver à mettre en place un processus de paix de longue durée dans l'est de la RDC et dans la région des Grands.
Que pensez-vous finalement du point stipulant, hein, et c'est le cas dans tous les accords finalement, que les pays voisins ne doivent surtout pas soutenir les groupes armés? Est-ce que vous pensez que ce genre de promesse maintenant pourrait être éventuellement tenue?
Il ne s'agit pas d'une promesse, il s'agit d'un engagement qui devient exécutoire dans la mesure où le Conseil de sécurité s'implique dans sa mise en œuvre. Donc, tous les États sont sujets du droit international. Maintenant, il va y avoir des mécanismes de surveillance et même des mécanismes militaires avec la Brigade internationale d'intervention. C'est plus qu'une simple déclaration. Et je pense que c'est cela qu'il faut saluer.
À propos, est-ce que cet accord remet en cause les discussions de Kampala et justement, où en est-on dans ces discussions?
Dans l'accord, il y a un paragraphe dans les engagements de la République démocratique du Congo où il est question de réconciliation et les discussions de Kampala visent justement à faciliter le retour au bercail d'éléments qui se sont levés contre leur propre pays, qui ont aidé les acteurs extérieurs régionaux notamment à agresser leur pays et qui consiste aussi à isoler des éléments criminels qui sont dans la M23, mais en même temps de faciliter le retour au bercail des éléments non criminels du M23. Donc les deux sont, à mon avis, liés.
Vous pensez que les deux sont liés, mais en plus clair, Monsieur Mende, aujourd'hui, est-ce qu'on discute encore à Kampala et où en est-on? Est-ce qu'on avance sur des points particuliers?
Il n'y a pas eu, à mon avis, une rupture de la rencontre de Kampala, parce que nous ne sommes pas allés à Kampala pour réécrire la constitution de la RDC. Nous sommes allés à Kampala pour deux choses qui nous avaient été demandées par les mêmes États de la région des Grands Lacs qui viennent de cadre d'Addis Abeba. Un, évaluer l'accord de 2009 entre le gouvernement et les mouvements rebelles du Kivu. Cela a été fait. Il y a même un procès verbal d'évaluation qui a été signé entre les deux parties. Deux, écouter les griefs légitimes du M23 et permettre au président de la République d'y répondre. Nous avons reçu les griefs du M23. Nous avons répondu à ceux qui méritaient une réponse immédiate et le président s'est engagé à apporter une réponse définitive à ces griefs qu'il considérera comme légitimes. Donc, on est allé faire deux choses, les deux choses ont été faites.
À ce propos, on parle de friction entre divers groupes, disons, du M23 dans l'est de la RDC, sur le plan militaire. Est-ce que vous confirmez cela?
Oui, je confirme qu'il y a eu des batailles entre deux factions de cette pseudo-mutinerie du M23. Il y a eu plus de 17 morts. Les enterrements ont eu lieu, d'ailleurs, dont un à Gisenyi, du major Moussana, qui est l'aide de camp du colonel Ngarouye, d'une des factions du M23. Et nous ne sommes pas étonnés, parce qu'il y en a qui font de la surenchère, il y en a qui sont plus réalistes que d'autres, mais nous espérons ramener ceux qui sont réalistes au bercail.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du M23, justement, en tout cas, du chef politique du M23, qui, lui, n'est pas du tout satisfait de cet accord d'Addis Abeba?
Apparemment, il n'a pas l'assentiment de tout le M23, parce que aussitôt qu'il a fait connaître cette réaction, il a été l'objet d'attaques allant jusqu'à des actions militaires contre sa faction. Donc, au nom de quoi est-ce qu'il parle? Ça devient un peu compliqué. Je pense que tout ce que le M23 a à faire, c'est d'exécuter la résolution du Conseil de sécurité qui lui demande de s'auto-dissoudre. C'est d'exécuter la loi congolaise qui ne prévoit pas l'existence de groupes politico-militaires dans notre pays. Il n'y a pas une troisième alternative pour ce groupe.
Alors, il y a Addis Abeba, il y a Kampala et au plan interne, que veut exactement M. Joseph Kabila dans cette proposition de dialogue interne?
Le président a annoncé des échanges, des concertations pour renforcer la cohésion contre les menaces de balkanisation qui pèsent sur le pays. C'est cela qu'il prépare. Bon, maintenant, les amis de l'opposition qui veulent faire feu de tout bois pour essayer de se mettre en valeur, pour essayer de grappiller le pouvoir en dehors des urnes, parfois rêvent tout éveillé. Bon, nous avons convié les gens à des concertations. Le président les prépare. Nous allons avoir ces concertations pour renforcer notre cohésion face à ceux qui menacent notre pays. Et ils sont très nombreux, surtout à l'extérieur de la République démocratique du Congo. C'est déjà un gros agenda.
Dernière question, Monsieur Mende. L'on sait que tout ça est en route et qu'il y a forcément des freins à cela, puisqu'on est encore en guerre dans l'est de la RDC. Cependant, le Congo a une armée, une grande armée. Qu'en est-il de la réforme? Est-ce que c'est au point mort ou est-ce que ça avance quand même?
La réforme est en cours. Elle a déjà commencé en 2009. Une réforme d'une armée, ce n'est pas la cour des miracles. C'est des choses qui se font selon un processus tout à fait professionnel.
Sur le plan financier, hein, et ça on peut difficilement le nier quand même, quand on apprend que les soldats n'ont finalement pas les moyens de faire vivre leur famille, est-ce qu'au plan financier, le Congo a besoin d'argent ou est-ce qu'il est à même de nourrir ses soldats?
Ce n'est pas un problème financier comme tel, c'est un problème de gestion. C'est de l'argent qui disparaissait entre le trésor public et le militaire, et le gouvernement a trouvé une solution, c'est la bancarisation de la paye des militaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de transport de fonds, donc il n'y a plus de possibilité de dissiper les fonds des militaires, et les militaires, même si c'est peu, ils sont au niveau de toutes les autres armées africaines, l'essentiel c'est que ça puisse arriver dans la poche du dernier des militaires. Et avec la bancarisation, avec l'utilisation des mobile banks par les téléphones, vous savez que nous avons maintenant 10 à 12 millions de Congolais qui sont connectés. On sait envoyer la paye par téléphone. Il n'y a plus d'intermédiaire indélicat et donc on a résolu cet aspect du problème.